Je vous invite à vous tourner avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 17. Lisons ensemble à partir du verset 1, Luc 17, je lis dans la Bible à la Colombe. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas à des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elles arrivent. » Il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le lance dans la mer que s'il était une occasion de chute pour l'un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi, envoie-le bouler. Non, c'est pas ça. En disant « Je me reprends », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait ». Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous allons poser ici. Souvent dans les paroles de Jésus rapportées par Luc, on a un peu de mal à suivre un fil directeur où on pense que c'est peut-être des paroles qui ont été dites à des occasions différentes et que Luc, les reprenant, ne fait pas la liaison entre ces différentes pensées. On passe des chaussures de ciment de la mafia, c'est plutôt une meule de pierre, une pierre de moulin autour du cou, à des graines de moutarde, un mûrier qui se jette dans l'eau, et puis le maître qui ne s'émerveille pas de ce que son employé, son esclave, fasse ce pour quoi il le fait vivre. Et puis cette phrase, « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Le mot en grec veut dire revient à l'expression que certains jeunes affectionnent aujourd'hui, qui est de vous dire tu sers à rien, pour dire que tu n'es même pas capable de m'aider. Et c'est ce que veut dire le mot en grec. Nous servons à rien de spécial. Nous ajoutons rien de plus. Mais reprenons et voyons un peu comment les pensées s'enchaînent. Jésus parle à ses disciples, il a parlé aux multitudes. C'est toujours important de faire la différence entre ces discours ouverts à tous les hommes, païens et croyants inclus. Mais là, il s'adresse à ses disciples, et il leur dit « Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute ». Et là, ces 3 premiers versets, c'est pour être intitulé « Prenez garde à vous-même ». Des occasions de chute. Ça vient d'un mot qui nous a donné le mot « scandale ». Et c'était à l'origine la baguette qu'on mettait sous un piège pour emprisonner, pour attraper des oiseaux, des petits rongeurs, un peu comme un attrape-souris. C'était cette petite baguette qui faisait que lorsque l'animal venait prendre l'appât, il causait la chute du piège sur lui-même et se retrouvait pris. Et là, les occasions de chute, en grec les scandales, c'est, nous dit Jésus, vous vivez dans un monde corrompu par le péché, vous êtes tous des pécheurs même si vous êtes sauvés, votre nature va faire qu'il va y avoir des occasions de chute. Il va y avoir des disputes, il va y avoir des ressentiments, il va y avoir des difficultés. Ça peut être dans l'enseignement. On peut pécher en enseignant des fausses doctrines. C'est des occasions de chute qui conduisent ceux qui les entendent à ne pas comprendre la vérité biblique, à la vérité de Dieu. Il peut y avoir des occasions de chute dans la façon dont nous conduisons. C'est intéressant que souvent les non-croyants sont ceux qui nous reprennent les premiers. Pendant les fêtes de Noël, on a eu l'occasion de dîner avec des amis non-chrétiens, avec même de la famille non-chrétienne. Et c'est la personne non-chrétienne qui a dit « Mais on ne commence pas par prier ». Certains avaient déjà commencé à prendre le repas. Et souvent, ceux qui savent que nous sommes chrétiens, ils nous observent. Et notre conduite peut être pour eux une occasion de chute. Vous avez tous entendu ceux qui vous disent ben, « Si c'est ça, être chrétien, alors moi je suis très bien à rester païen. » Et c'est vrai que souvent on donne un mauvais exemple par notre conduite et puis par nos paroles. Il est si facile de blesser quelqu'un. La façon dont on réagit, parce qu'on est fatigué ou on a mal compris ce que l'autre nous dit. Les disputes peuvent surgir à tout moment. Il est important de ne pas être l'auteur de ces sources de division, ces sources de chute. Il dit « malheur à celui par qui ça arrive ». Alors le malheur, c'est pas de se retrouver balancé dans la mer avec une pierre de moulin autour du cou. Quand vous faites de la plongée, on vous donne des... Si vous avez une combinaison en néoprène qui a tendance à flotter, il faut prendre des poids pour équilibrer la poussée, sinon vous avez beau essayer de plonger, vous restez en surface. Là, quand on a une pierre de moulin autour du cou qui pèse 500 ou à une tonne, vous plongez vite, très vite, et vous restez au fond. Mais ça, c'est pas le malheur dont il parle. Ça serait quelque chose, c'est ce qu'il dit, hein, Jésus. Il serait plus avantageux par rapport au malheur qu'il invoque sur ceux qui sont l'auteur d'occasions de chute. Ce serait plus avantageux qu'on tombe directement dans l'eau. Au moins, ça serait fini rapidement. Mais il conclut en disant, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Faites attention à votre comportement. Il nous dit malheur à celui par qui ça arrive, et il s'adresse s'il était une occasion de chute pour l'un de ses petits. Alors, là encore une fois, il parle aux disciples. Il montre des gens, peut-être des enfants, certainement, c'est une grande responsabilité que de ne pas éloigner les enfants de Dieu. En tant que parents chrétiens, nous avons une responsabilité, j'allais dire effrayante. Elle n'est pas effrayante si on s'en remet à Dieu, mais nous avons une grande responsabilité de voir nos enfants ne pas les séparer de Dieu par nos attitudes, par nos comportements, par notre légalisme, par notre... Il faut, encore une fois, prendre garde à soi-même. Et c'était aussi les nouveaux croyants, les jeunes croyants. Cette année, je prie pour qu'on ait des nouveaux croyants qui viennent dans l'Église, des personnes qu'on rencontre dans la rue, des personnes qui découvrent Dieu et son salut en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fraîcheur, il y a un enthousiasme, il y a une joie que nous qui sommes habitués au salut, à l'amour de Dieu, nous devenons un peu endurcis, nos cœurs s'endurcissent. On n'est même plus émerveillés par le salut en Jésus-Christ. Et d'avoir des jeunes croyants, c'est... qui ont du zèle, qui ont de l'enthousiasme, qui sont prêts à faire des choses qu'on a déjà essayées 50 fois, qui n'ont pas marché, mais qui vont marcher cette fois-ci parce qu'ils y croient, c'est formidable. Et je vous invite tous à prier, vraiment cette année, pour que dans votre entourage, il y ait des gens qui viennent à Christ. J'aime beaucoup une initiative qui a été prise dans l'église mère de Calvary cette année. Le pasteur Brian Broderson a invité chaque personne présente à faire une petite liste dans sa Bible de 5 voisins, 5 parents, 5 collègues de travail pour lesquels il s'engage à prier tout au long de l'année pour qu'ils viennent à Christ. Et je vous invite à faire de même. Pensez à 5 personnes. C'est quelque chose qu'on fait traditionnellement lorsqu'il y a un grand mouvement d'évangélisation avec un grand évangéliste comme Billy Graham, Luis Palao. On fait des listes de noms. On appelle ça souvent l'opération André parce que André était connu pour amener ses frères voir Jésus-Christ. Peut-être que 5 personnes, ça vous paraît beaucoup, mais faites 5 lignes dans votre Bible à la fin, sur une page. Et puis, priez tous les jours pour ces personnes. Est-ce que vous avez la foi que la prière peut changer quelque chose ? Laissez le Saint-Esprit, laissez le Seigneur vous parler, vous montrer ces 5 personnes. Et je crois que quand on prie comme ça pour que les gens viennent à Christ, il se passe quelque chose dans les cieux. Je me souviens lorsque, pour une campagne, je crois que c'était peut-être avec Billy Graham ou non, c'était Luis Palao, beaucoup de personnes à Nice avaient ces listes de prières. Je crois qu'on nous demandait même de prier pour 10 personnes à l'époque. Mais il y avait des prières qui étaient élevées dans la ville. Et il y avait un changement d'atmosphère qui s'était produit, une atmosphère spirituelle qui avait changé à Nice. Et on priait pour des personnes qu'on connaissait, mais on avait des occasions de parler de Dieu naturellement avec des personnes pour lesquelles on n'avait pas prié. Je me souviens, j'étais justement, je déjeunais avec une de ces personnes pour lesquelles je priais. Et je lui parlais de l'Évangile, je lui parlais comment ça avait transformé ma vie, comment on savait qu'il y avait un Dieu, on ne pouvait pas croire qu'on était là par hasard. Je parlais comme ça. Et j'avais remarqué, il y avait une personne à côté de nous qui n'était pas très discrète et qui nous écoutait. Et je l'ai gentiment ignoré pendant notre conversation. Et c'est lui, à la fin de la conversation, qui m'a dit « Écoutez, monsieur, je suis désolé, mais j'ai entendu ce que vous disiez et j'aimerais en savoir plus. » Waouh ! Donc je vous engage vraiment à prier pour ces 5 personnes et aussi pour que ces 5 personnes, elles nous encouragent par leur foi, leur zèle. Mais, encore une fois, c'est très grave si on est une occasion de chute pour eux. Si la façon dont on se comporte, la façon dont on réagit, nous conduit à mettre un mur entre eux et Dieu. C'est une grande responsabilité. C'est pour laquelle, la raison pour laquelle Jésus dit « Prenez garde à vous-même ». Il nous parle ensuite, il lit les deux, pas être une occasion de chute, parce que on vit dans un monde où les gens vont se disputer, les gens vont se froisser, les gens vont mal interpréter votre réaction, ou peut-être bien l'interpréter, et votre réaction n'aura été une réaction dans la chair. Et donc, il est impossible qu'il n'arrive pas des problèmes dans l'Église. Encore une fois, il parle aux disciples. Ne soyez pas surpris s'il y a des choses qui sont mal comprises, des choses qui sont bien comprises, des disputes, des dissensions. Mais il nous dit donc de ne pas être ceux qui les causent, mais tôt ou tard, on vit entouré de pécheurs, et nous sommes nous-mêmes des pécheurs, et on va blesser l'autre, on va mal se comporter, on va être un mauvais témoin de Jésus. Et là, il nous donne la suite. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Versets 3 et 4, c'est « pardonne ». On a une responsabilité de reprendre l'autre. Il ne s'agit pas d'être hypersensible. La pire des possibilités ou la pire des natures, c'est d'être insensible avec les autres, mais très sensible à ce qu'ils nous disent. Et au moins de petites choses, on prend la mouche, on se fâche avec eux, mais nous-mêmes, on va parler sans égard, sans penser à ce que nos paroles peuvent être blessantes ou susciter des choses dans l'autre personne qui vont lui faire du mal. Nous avons la responsabilité de reprendre le frère. Ça peut être simplement de dire, en le prenant à part, tu sais, ce que tu m'as dit, ça m'a blessé parce que c'est quelque chose avec laquelle je me bats ou c'est une souffrance. Et là, s'il se repent, pardonne-lui. Nous avons la responsabilité de reprendre, mais nous avons aussi la responsabilité de pardonner. C'est dans Éphésiens que Paul nous dit, Éphésiens 4, 15, que nous devons parler la vérité avec amour. Souvent, on aime bien mettre les deux en opposition, que si on dit la vérité, on ne peut pas le faire avec amour. Et donc, quand on dit les quatre vérités à quelqu'un, ça fait des étincelles, ça blesse, ça coupe, ça cingle. Ou alors, on va verser sur l'amour, et à ce moment-là, on va rien dire de mauvais, on ne va pas aider l'autre, en fait. On va tout avaler, et laisser l'autre continuer dans son péché. J'en conviens, c'est difficile. C'est difficile parce que nous devons reprendre, condamner le péché, mais ça, on n'aime pas faire. Peut-être, il y en a peut-être parmi nous, et j'ai pas réfléchi à qui ça peut être dans mon esprit. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien la confrontation. La plupart d'entre nous, on préfère ne pas faire de vagues. Mais c'est pas biblique. Nous devons reprendre, nous devons confronter. Mais ce qui est difficile, c'est que nous devons aussi pardonner le péché, parce que ça aussi, nous ne le voulons pas. Pardonner. Quelqu'un disait que obéir à ses commandements, de reprendre le péché, mais de pardonner le péché, ou le pécheur, reprendre le péché et pardonner le pécheur, quand on obéit à ça, ces préceptes que Jésus nous donne ici, c'est quelque chose qui devient sublime. Wow. Parce que lorsqu'on est dans cette attitude ou dans ce comportement, ou qu'on essaye de l'être du mieux qu'on peut avec l'aide de Dieu, alors là on ressemble de plus en plus à Dieu. Parce que Dieu, c'est ses caractéristiques. Il condamne absolument le péché. Il est toujours dressé contre le péché. En reproche permanent, il tolère jamais, bon ben ça va cette fois-ci, non, il est contre le péché. Il dénonce le péché par son Esprit Saint. Et en même temps, il est celui qui prend plaisir à pardonner le pécheur qui se repent. Donc là aussi, on n'est pas là pour prendre des bonnes résolutions, mais peut-être prier pour que Dieu nous aide à davantage, et dans mon cas, surtout, que je connais bien, à reprendre le péché lorsque je le vois. C'est fondamental dans la vie de l'Église, c'est fondamental dans votre vie de chrétien. Et c'est pour ça que si on fait que se croiser en souriant le dimanche après le culte, en prenant une tasse de café, on va pas grandir. C'est quand le fer aiguise le fer, qu'il y a des étincelles, qu'on devient plus acéré, qu'on devient plus un disciple que Jésus peut utiliser. C'est un autre pasteur et poète anglican du siècle dernier qui disait « Celui qui ne peut pardonner détruit le pont sur lequel il doit lui-même passer. » Si vous avez cette dureté dans le cœur qui refuse de pardonner, Dieu nous l'a dit, il ne va pas nous pardonner non plus. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'être pardonnés par ce frère aujourd'hui, en ce moment, mais tôt ou tard, peut-être pas avec lui, mais avec d'autres, Dieu va devoir nous pardonner. Et montrer de l'intransigeance, montrer de la dureté, montrer du légalisme, c'est scier la branche sur laquelle on aimerait pouvoir s'asseoir un jour. On sabote notre salut. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui ne pardonne pas, peut-être pas, c'est peut-être pas le meilleur moment de le dire, mais vous pouvez les traiter de saboteurs de salut, de propre salut. S'il pêche 7 fois dans un jour, 7 fois il revient à toi en disant « Je me repens, tu lui pardonneras. » Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite remarque en lisant ce texte. Au bout de 7 fois, tu l'envoies bouler. Et c'est drôle parce qu'on peut connaître ces versets, comme Pierre qui disait combien de fois dois-je pardonner celui qui m'offense ? 7 fois, il pensait que Jésus allait lui dire oh, félicitations Pierre. Jésus lui dit 7 fois 70. Autrement dit, c'est tu comptes pas, tu continues de pardonner. Je me souviens, j'étais jeune pasteur, pas que je sois capable de dire la même chose aujourd'hui des fois, mais on avait une réunion avec les anciens et on parlait d'une personne. Une personne qui venait chaque semaine me demander pardon pour les mauvaises choses qu'elle avait dites sur moi. Et j'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit une fois ça va, 2 fois ça va, mais il y a un moment ça va quoi. Et un autre ancien très très doux et très sage m'a dit 7 fois 70, Pierre. Pardonner. Dans une même journée, le gars revient 7 fois. Alors, je crois qu'on peut quand même se faire un distinguo, une distinction. Si vous avez un colocataire qui vous dit une fois que vous rentrez de vacances, ben écoute, j'ai pris ton ordinateur, ta télé, je les ai vendus pour pouvoir me payer un petit voyage. Pardonne-moi. Vous pouvez pardonner la personne. Vous devez pardonner la personne. Ça ne veut pas dire que vous devez la garder comme ou le garder comme colocataire. Parce qu'il y a une relation de confiance qui a été brisée. Donc le pardon, ça ne veut pas dire que on continue bêtement à s'exposer, mais on doit libérer, pardonner l'autre. Et on voit le fil de la pensée des apôtres devant ces préceptes. Ils disent, mais on aurait pu penser qu'ils demandent plus d'amour. Augmente notre amour pour pouvoir pardonner. Mais le pardon, ça demande plus que de l'amour. Ça demande de la foi en Dieu. Parce que notre nature d'homme se révulse à l'idée de pardonner quelqu'un qui nous fait du mal. Parce qu'on se dit, si je pardonne, je vais encore souffrir. La personne qui a déjà demandé pardon 7 fois, elle va venir une 8e fois me dire qu'elle me demande pardon. Petite parenthèse que je voulais faire aussi au sujet d'aller demander pardon aux gens. C'est de ne pas aller demander pardon pour les choses dont ils ne sont pas au courant. Encore une fois, je vais me prendre en illustration. Quand j'étais à l'école biblique, il y avait un évangéliste qui était passé et qui avait parlé plusieurs soirs. Et le première fois que je l'avais entendu, je l'avais trouvé très orgueilleux, très très hautain, très regardez comment moi je vis les préceptes de Dieu, je fais des appels, les gens viennent, je vais dans les rues, dans les stades, je suis un grand évangéliste. Et j'avais trouvé qu'il puait d'orgueil. Et puis, il a enseigné 2 autres soirs. Et à la fin, le Seigneur m'a repris en me disant, ce que tu pensais de lui, c'est pas juste, c'est pas bien. J'ai dit, bon d'accord, je vais aller lui demander pardon. Et alors, je lui ai pas dit tout le mal que je pensais de lui, mais je suis venu le voir et je lui ai dit, Je vous remercie pour ces soirées où vous nous avez enseigné, parlé. Mais en fait, j'ai quelque chose, je dois vous demander pardon parce que le premier soir, je n'ai pas apprécié ce que vous disiez, la façon dont vous vous comportiez. Mais le Seigneur m'a repris et là, lui aussi, très gentiment, c'est souvent par la douceur que le Seigneur va vous faire comprendre des choses. Il m'a dit, j'apprécie beaucoup que vous veniez me demander pardon. Mais en fait, je n'étais pas au courant de vos pensées. La prochaine fois, peut-être, vous pouvez garder ça entre vous et Dieu. Et j'ai dit, yes, il a raison. Je l'ai remercié pour ce bon conseil. Mais c'est un conseil aussi. Des fois, on pense qu'on doit aller demander pardon à quelqu'un qui n'était même pas au courant que vous aviez entretenu une mauvaise pensée ou une... Ça aussi, pourquoi c'est entre vous et Dieu pour l'instant, tant que ce n'est pas sorti entre vous et lui. Juste en passant. S'il pèche contre toi sept fois et qu'il te dise « je me repens », tu lui pardonneras. Alors, vous connaissez l'autre passage, je crois que c'est dans Marc 11. Non, ça c'est autre chose, c'est dans Matthieu 18 plutôt. Matthieu 18 qui nous dit comment exercer la discipline dans l'Église. On peut lire ensemble les versets 15 à 22 du Matthieu 18, c'est page 22 dans la Bible à la Colombe. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Voilà, ça c'est la « reprends ». Reprendre, et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Ça ne veut pas dire que vous le rejetez, mais que vous réalisez qu'en fait, il n'est pas sauvé de nouveau, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas sauvé, il ne comprend pas encore la foi chrétienne, il est encore pratiquement un païen. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est l'épisode où Pierre s'approche de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à sept fois ?» Et Jésus lui répond « Je ne dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 77 fois sept fois. » C'est intéressant que dans le passage que nous lisons dans Luc, il y a cette réserve, cette condition qu'on pardonne si l'autre se repent. Mais dans le passage de Matthieu, cette condition n'est pas là et je crois qu'en fait, notre pardon, il ne doit pas dépendre de la repentance de l'autre. L'autre, il va se repentir s'il est sensible à Dieu, c'est une affaire entre lui et Dieu, mais ma responsabilité, c'est de dire à l'autre, et en le pensant vraiment, je te pardonne. Je te pardonne, ça veut dire que je renonce à la possibilité, au droit que les hommes s'accordent de te faire souffrir en retour pour ce que tu m'as fait souffrir. Pardonner. Donner la douleur à l'autre en disant « je ne cherche pas à prendre ma vengeance ». C'est pour ça que les apôtres disent « il faut que tu augmentes notre foi. » Parce qu'encore une fois, ça fait peur de pardonner l'autre il ne donne pas les preuves qu'il y a un vrai changement en lui. S'il revient et qu'il refait la même chose et qu'il vous fait mal encore, la foi est nécessaire pour dire « Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai peur de souffrir encore, mais parce que tu l'as dit, je le pardonne. Parce que tu le demandes, je le pardonne. » Et encore une fois, quand on est obéissant dans ce domaine, on se rapproche de Dieu, de la nature de Dieu qui se tient contre le péché mais qui pardonne. Donc pardonner, ça ne veut pas dire ne pas dire à l'autre qu'elle vous a fait mal, qu'elle a péché ou que sa conduite est une conduite de péché. Et puis on a vu dans Matthieu 18 les procédures dans l'Église, d'abord aller le voir seul s'il ne vient pas à la raison, s'il ne reconnaît pas son péché, faire venir des anciens et puis finalement le dire à l'Église et le considérer comme quelqu'un qui n'a rien compris, qui n'est pas sauvé encore. Puis le Seigneur a cette expression, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, le grain de moutarde, certains disent, oh c'est faux, c'est pas le plus petit grain, la plus petite graine qui existe en botanique. Ça prouve que la Bible n'est... Non, mais c'était simplement une graine que les gens connaissaient, qui était toute petite. Un peu comme les grains de sésame aujourd'hui, où on voit pas tellement... Ou dans la moutarde de Dijon à l'ancienne, on voit les petites graines. Et il dit, si vous avez une foi comme cette itsy-bitsy petite graine, vous pourriez aller dire à cet arbre de se déraciner et d'aller dans l'eau, et il vous obéirait. Dans l'autre passage, dans Marc 11, 23, on peut lire aussi, c'est toujours cette même idée, que la foi accomplit des choses incroyables. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Alors, ce n'est pas des conseils pour les travaux publics, mais c'est pour nous faire réfléchir à la puissance de celui en qui nous mettons notre foi. Encore une fois, ce n'est pas une grande foi dans une petite couche de glace, et même une toute petite, une infime foi dans quelque chose de solide qui va nous donner de voir des choses arriver. Il leur dit, ayez la foi, versets 5 et 6. On pense que à l'époque, le mûrier, un arbuste et un arbre qui est cultivé dans certains pays pour ses fruits. Ici, on les laisse, c'est les ronces qui donnent les mûres. Les racines sont très, très solides, très coriaces. J'allais dire vivaces, mais elles sont coriaces. Si vous avez jamais dû enlever des ronces dans votre jardin, après quelques années... C'est un dur travail. En plus, il y a les épines, mais c'est des racines. Et donc, il prenait cet exemple avec une toute petite foi où vous pourriez dire à cet arbre de se déraciner, d'aller se planter dans la mer, et il le ferait. Imaginez les chrétiens à Nice qui prient intensément, et d'un seul coup, les palmiers de la Prome se retrouvent dans l'eau, dépassant. Ce serait beau, non? C'est pas le but, bien sûr. C'est une image, c'est une figure de style. Lorsqu'on dit qu'on prend la Bible littéralement, ça veut pas dire qu'on est imbécile. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a différents styles de littérature. Il y a de la poésie, il y a des comparaisons, il y a de l'histoire, il y a de la théologie. Mais la Bible dit « Dieu est assez fort, assez grand pour dire ce qu'il veut dire et vouloir ce qu'il dit. » Vous pouvez mettre votre foi dans la Bible sans aller planter les palmiers de la promenade dans la mer. Et il continue, et l'idée c'est que vous vous dites sans doute que si on arrive avec cette foi qu'on va cultiver, entre parenthèses, cultiver sa foi, c'est la foi, on a justement dit, c'est comme un muscle. Elle grandit quand on l'exerce. Si on prend jamais aucun risque devant Dieu, notre foi va rester flasque. Si on prend des aventures de foi, que ce soit des petites choses ou des choses plus grandes, on va voir que Dieu est digne de confiance et on sera prêt à lui confier davantage de choses. Il est important de connaître les promesses de Dieu et de voir que si on lui fait confiance, ses promesses s'accomplissent. Et ces promesses, on ne les trouve pas dans les journaux, on les trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est pour ça que Paul, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu, en connaissant les promesses. Là aussi, je vous invite à essayer de lire toute la Bible cette année. Manu a proposé de le faire en anglais. J'ai un site sur Internet, Compagnon de la Bible en un an, qui va vous aider à lire, à écouter et à avoir des commentaires sur ce que vous lisez. Ça prend 15 à 20 minutes chaque jour. Si vous connaissez ces promesses, vous allez faire confiance à Dieu. Mais Jésus, connaissant notre nature humaine, nous met en garde de ce qu'on a tendance, si on exerce la foi, si on pardonne les autres, le péché qui est tapis à notre porte va remplacer le manque de foi par de l'orgueil dans notre propre foi. L'orgueil dans ce que nous pouvons accomplir pour Dieu. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Là encore, il prend des images de l'époque et il fait remarquer que il serait aussi stupide de s'attendre à ce, lorsque l'on fait ce que le Seigneur nous demande, de penser qu'il va nous féliciter pour faire ce qu'il nous a demandé de faire. Nous vivons dans une société où on recherche les compliments, les accolades. La Légion d'honneur a été remise par le président de la République. J'en veux pas de ta Légion d'honneur avec ce que tu fais en économie. Ça, c'est une attitude de quelqu'un qui ne cherche pas les compliments. Son travail suffit à le mettre en valeur. Les Oscars, les Miss, les Césars, les palmes académiques, la Légion d'honneur. On cherche les honneurs, alors qu'en fait, bien souvent, on ne fait que ce qu'on devrait faire. Et il dit, le maître ne va pas dire lorsque son ouvrier revient des champs, « Attends, je vais te servir, je vais te bichonner, tu es incroyable, tu fais ton travail. » Et puis on va ouvrir un compte pénibilité, parce que ce que tu as fait est difficile. C'est pas une négation, mais de cette idée, mais c'est pas le maître qui va. Il va laisser son serviteur, son esclave surtout, continuer de le servir. Et c'est pour ça qu'il dit, lorsque vous faites ce que je vous dis, n'attendez pas des compliments, la gloriole. On aimerait bien que, et on nous apprend très tôt à l'école, très tôt à la maternelle, à attendre des récompenses. Nous devons servir Dieu, non pas parce qu'il va nous donner une récompense, parce qu'il nous a déjà récompensés avec la promesse d'une félicité éternelle. Et au lieu de mériter des bons points, on va travailler pour lui par reconnaissance. Quand j'étais gosse, je découpais les bons points en deux pour faire croire que j'en avais eu plus à ma mère. Elle disait, mais tu en as eu combien là? Deux? Ah mais c'est le même, non? Ce désir d'être reconnu, d'être adulé, d'être complimenté. Si on sert le Seigneur, alors on ne s'attend pas à ça. Et pourtant, on a déjà vu, c'est Tonio qui nous l'a enseigné dans Luc 12, la grandeur, la dimension incroyable de la grâce de Dieu. Parce que c'est, on va lire ensemble, Luc 12, versets 35 et 37. Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivera trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, et là c'est assez incroyable, il se ceindra, il mettra une ceinture, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. On a l'impression que c'est les deux passages se contredisent. Non, la vérité, c'est que tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est normal. On n'a pas à attendre à ce qu'il nous frappe, donne des accolades sur le dos ou nous mette une médaille, une légion d'honneur. C'est normal. Mais sa grâce, c'est que même si c'est normal, c'est lui qui va nous traiter avec les plus grands égards et qui va nous dire en fait, mettez-vous à table, je vais vous servir maintenant. Est-ce qu'on réalise l'immensité de la grâce de Dieu? Mais il est bon de nous-mêmes d'avoir cette conviction de ne pas avoir d'orgueil dans notre service pour Dieu, quoique nous soyons appelés à faire par Dieu, quel que soit, entre guillemets, notre succès dans ce que nous faisons pour Dieu. Humilité, parce que rien de ce que nous avons, aucune de nos capacités n'a pas été reçue. Nous l'avons reçue de Dieu. Nous ne pouvons être que reconnaissants pour les choses qu'il nous confie, les dons, les talents. C'est pas de ma faute si je suis beau, si je suis fort. je parle en général. Mais avoir ce vrai sentiment que je sers à rien. En fait, l'idée c'est pas que je sers à rien, mais je n'apporte rien de plus à ce que Dieu a déjà fait, à ce que Dieu fait. Si c'est pas moi, il trouvera quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous vous dites des fois, je suis un serviteur inutile? Je trouve que c'est une bonne façon d'avoir une vision juste de soi. Je suis un serviteur inutile. C'est le mot acrea. Créa, c'est utilisation, c'est usage. Je suis sans usage. Si je fais pas quelque chose pour Dieu, il trouvera quelqu'un d'autre. Et de toute façon, tout ce que je peux faire, c'est ce qu'il m'a demandé de faire. Pourquoi est-ce que je devrais penser qu'il va s'émerveiller? Sachant qu'en fait, il va être plein de grâce envers moi. Il va me bénir, il va multiplier ses dons pour moi. Voilà donc. Les occasions de chute, je crois qu'on attendra la fois prochaine. Dimanche prochain, ce sera donc Luc Bussière qui sera là. C'est le pionnier, on l'a dit, des écoles chrétiennes évangéliques en France. Il est président de l'association de ces établissements. Et quand je l'avais écouté la première fois il y a plusieurs années, j'avais été surpris par la facilité sur le papier d'établir des écoles où on enseigne des valeurs chrétiennes aux enfants et qu'on n'ait pas une occasion de chute pour ces petits. Aujourd'hui, nos enfants, s'ils vont dans des écoles, on va leur apprendre des tas de choses qui vont les éloigner de Dieu. Et donc cet homme a créé plusieurs écoles et on aura donc la joie et le privilège de le recevoir. Il sera vendredi soir à l'église de Pessicard et samedi après-midi il sera ici à Calvary et c'est lui qui amènera le message dimanche prochain. Pensons à ces petits que nous ne voulons pas offenser, être une occasion de chute. Et nous sommes tous des serviteurs inutiles. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est si pleine de vérité. Elle est la vérité, Seigneur. Tu es la vérité. Tu es le Verbe incarné. Seigneur, il est bon de venir boire à tes paroles et de méditer, de réfléchir sur ce qu'elles nous apprennent. Et Seigneur, nous sommes émerveillés par ta grâce, le fait que nous ne méritions rien, et pourtant tu nous donnes, tu nous combles de bienfaits, de bonheur. Seigneur, nous te remettons tous ceux qui sont dans la souffrance physique, dans la souffrance morale. Bénis-les, Seigneur, aide-les à voir leurs bienfaits. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen.